Chapitre 28e, un cœur fort. Autour de Chrysostome s'étaient groupés, dans l'intervalle, 40 évêques qui détestaient Théophile et ses manœuvres haineuses. Celui-ci était si sûr de son affaire qu'il disait tout haut que le concile n'avait pas d'autre but que de déposer Chrysostome. Tous les esprits étaient dans l'inquiétude de l'attente, aussi bien au palais impérial qu'au palais du patriarche, parmi toutes les classes de la population et jusque dans le peuple du port. La décision impériale, qui ordonnait que le concile fût tenu à Chalcédoine sous la présidence de Théophile, avait profondément affligé les 40 évêques restés fidèles à leur patriarche Chrysostome. La blessure que l'Église recevait en sa personne les atteignait au cœur. Ils étaient fermement résolus à soutenir avec lui la lutte et à partager ses dangers. L'injustice qui lui était faite les affectait plus que lui-même. Chrysostome conservait la paix la plus imperturbable dans l'union intime de sa volonté avec la volonté divine. On lui annonça qu'une dame demandait instamment à lui parler. Malgré ses occupations pressantes, il ne put se décider à lui refuser audience. Elle entra donc, leva son voile et tomba à genoux auprès de la porte. « Je suis, dit-elle en tendant les mains vers lui, la fille du malheureux général Arien Gainas, et je viens prier votre sainteté de me recevoir au nombre des catéchumènes. Mais avant tout, je dois vous demander pardon, car j'ai souvent mal parlé de vous sans vous connaître, uniquement poussé par l'aveuglement dans lequel je vivais. » « Que Dieu bénisse votre résolution, dit le patriarche avec joie. Vous entrez dans l'Arche Sainte au moment de la tempête, et votre conversion me réjouit doublement, parce qu'elle montre une foi solide. Une âme qui douterait ne ferait pas en ce moment une semblable démarche. « Je ne doute plus, » dit Gunilde avec calme. « Quel est l'instrument béni dont la main de Dieu s'est servie pour vous communiquer cette grande grâce ? Est-ce Olympia ? Est-ce Amantius ? Tous deux m'avaient fait part de leurs espérances et de leurs désirs pour vous. « Saint-Père, » fit Gunilde avec un profond sérieux, « j'ai un cœur dur, qui ne se laisse pas facilement ébranler par le souffle léger du printemps. Ce n'est pas à ces âmes douces et célestes qu'il a été donné de me gagner, mais un homme, qui était sur le point de quitter l'Église catholique pour suivre ses passions, et cet homme est un prêtre. » Chrysostome jeta un regard interrogateur sur Gunilde. « Une semblable expérience est de nature à éloigner de l'Église, » répondit-il. « Oui, les âmes qui ont peu de foi, » dit-elle simplement. Une joie indicible illumina le visage du patriarche pendant que Gunilde continuait son récit. Ce malheureux s'appuyait sur l'exemple d'Arius pour justifier sa désertion. Il trouvait injuste que je blâmasse en lui une conduite que j'admirais assez dans le prêtre d'Alexandrie pour rester dans sa secte. Cette réflexion me toucha le cœur. Un éclair de la grâce fit tomber le bandeau de mes yeux, et je reconnus clairement la différence qui existe entre les sectes et l'Église de Dieu. Celles-là sont engendrées par le caprice des hommes. Celle-ci sort de la vérité une, éternelle, immuable, et par conséquent, divine. Et puisqu'elle est telle, elle peut rester inébranlable dans son essence, quand les peuples, quand les pays entiers, que dis-je, quand ses propres prêtres, aveuglés par les mauvaises passions, entraînés par l'égoïsme, étourdis par l'orgueil, l'abandonnent, sous prétexte de chercher ou de fonder quelque chose de meilleur. C'est une branche pourrie, une feuille piquée des vers qui tombe avec eux de l'arbre de l'Église éternellement vert et florissant. Je veux trouver mon repos sous son ombrage. Je veux m'y attacher pour l'éternité. Avec ces sentiments, répondit Chrysostome, vous êtes faite pour une époque comme la nôtre, où règnent toutes sortes de désordres et de tribulations spirituelles qui sont pour les cœurs faibles une cause de scandale ou de découragement. Celui qui fait reposer sa confiance sur l'élément humain dans l'Église s'appuie sur un bâton rompu. Vous vous appuyez sur l'élément divin, sur la promesse du Seigneur qui ne trompe jamais, qui jamais ne faillit. « Oh, ma fille, vous êtes en bonne voie. »« Oui, » dit Gunilde avec émotion, « je suis dans la bonne voie, mais je souffre en pensant à mon pauvre peuple. Mon noble peuple gothique, que l'évêque Ulfilas a si indignement détourné de la vraie foi. Vous connaissez donc aussi cette histoire ? » demanda-t-il en riant. « Que votre sainteté ne s'imagine pas que je ne sois poussé que par la tempête des passions à entrer dans le port de l'Église. J'ai mis à profit les derniers temps pour m'instruire, autant que j'ai pu, sur beaucoup de choses, et en cela j'ai été puissamment aidé par l'excellent Amantius. Je sais maintenant que des missionnaires catholiques ont porté chez les Goths la religion du Sauveur, qu'ils ont été catholiques et ne sont devenus à rien qu'après que l'évêque Ulfilas eut trahi la foi pour l'hérésie. Avant cela, nous avons eu des confesseurs et des martyrs, et un évêque des Goths a signé la profession de foi de Nicée qui condamne la doctrine d'Arius. Je sais cela maintenant, et je loue la grâce de Dieu. 50 ans plus tard, les Goths furent si terriblement pressés par les Huns dans la Mésie que la terre leur manqua sous les pieds. C'est alors qu'ils envoyèrent l'évêque Ulfilas vers l'empereur Valens pour le prier de leur permettre de passer le Danube et de s'établir sur la rive méridionale de ce fleuve en Thessalie. L'empereur y consentit à condition que les Goths embrasseraient l'arianisme qu'il appelait le vrai christianisme. Ulfilas accepta la condition et employa toute son influence auprès du peuple pour la faire remplir. Il jouissait d'une grande considération parmi les Goths. C'était lui qui avait trouvé les lettres de l'alphabet pour notre langue. Il avait traduit les livres saints en gothique. On l'honorait comme un homme très instruit et très habile. On pensa qu'il devait être bien sûr que l'arianisme était préférable au symbole de Nicée. Et peu à peu, toute la nation des Goths devint chrétienne et idolâtre, c'est-à-dire arienne. Il y a donc là un apostat que ses partisans regardent comme un grand homme, comme si la traduction des livres saints pouvait compenser la perte de la sainte foi, pendant que ces livres n'ont aucune valeur s'ils ne sont interprétés selon l'esprit de l'Église catholique. Oui, je sais tout cela. Mais cette scène est juste interprétation de l'Écriture sainte. J'espère l'apprendre à l'école des catéchumènes, et je prie à genoux votre sainteté de me recevoir comme telle. C'est un désir que notre tendre mère, l'Église, accomplit toujours avec une nouvelle joie, dit Chrysostome. Qu'on vienne à elle par centaines et par milliers, chacun des néophytes lui est aussi agréable que s'il était seul. Vous connaissez Olympia, ajouta-t-il, adressez-vous à elle. Comme diaconesse, c'est elle qui est chargée de l'instruction des catéchumènes du sexe féminin. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous conduise dans les voies de la vérité. Priez aussi pour l'Église, ma fille, et pour nous, ses prêtres, ses indignes serviteurs, afin que nous puissions passer à travers le feu purifiant des épreuves et des tribulations en contribuant à sa gloire et en travaillant à notre salut. Gunhild fondit en larmes, douces larmes de joie, et tomba aux pieds du patriarche, qui la bénit avec le signe de la Sainte Croix et la congédia. Elle se rendit auprès d'Olympia, qu'elle n'avait pas vue depuis la triste soirée de l'enlèvement. La bonne nouvelle que Gunhild lui apportait fit un instant oublier à Olympia la vive inquiétude que lui causait, ainsi qu'à tous les fidèles, le sort du patriarche. Oh, nous voulons nous réjouir et nous couronner de fleurs comme au saint jour de fête, s'écria-t-elle en embrassant Gunhild, parce que votre âme se sauve de la ruine qui menace en ce moment un si grand nombre de fidèles. C'est mon heure, dit Gunhild. Les contrastes ont besoin d'être fortement accentués pour que je puisse voir clair. La faiblesse humaine se fait sentir en tout lieu. L'infirmité est le cachet de l'homme né de la poussière, qu'il soit catholique, arien ou des autres sectes que je ne connais pas. Mais les martyrs et les saints ne se trouvent que dans l'Église catholique, et c'est pour cela qu'ils sont poursuivis par la malice et le mensonge, pour qui les maximes célestes et les célestes exemples sont un objet d'horreur qu'ils voudraient anéantir. C'est ainsi que l'Église est un calvaire perpétuel, mais la grotte de la résurrection est tout près. Non, pas toujours ici-bas, dit Olympia, car ils sont souvent séparés par une grande distance. Il nous suffit, dit Gunhild, que la foi nous montre l'éternelle résurrection de l'Église, même ici-bas. Nous pouvons bien porter nos regards au-delà des quelques jours, des quelques années de notre vie. Mais qu'est-ce que donc cela, notre vie, si courte, si misérable, si peu de choses ? Non, pas tout à fait si peu de choses, dit Olympia en riant. La vie est un bien merveilleux. Née dans le temps, soumise aux luttes, aux souffrances, aux épreuves auxquelles elle s'arrache péniblement, elle ne s'épuise pas dans les joies de l'éternité. L'impératrice reçut avec assez de froideur la déclaration de Gunhild. Qu'à une autre époque, elle aurait accueilli avec des transports de joie. Dans ce caractère capricieux, tout dépendait de l'impression du moment, et cet événement, qu'elle désirait depuis des années, s'effaça dans les préoccupations fiévreuses au milieu desquelles ses regards se portaient du côté de Chalcédoine. Théophile s'y était installé dans un palais qu'autrefois Ruffin avait élevé avec une église et un cloître dans le faubourg du Chêne, palais magnifique et admirablement situé. Il y assembla les évêques de son parti. Là, ils étaient assurés contre toute tentative de la part du peuple fidèle de la capitale, car le Bosphore les séparait de Constantinople, et assurait aussi de trouver tout l'appui désirable, car l'évêque de Chalcédoine comptait parmi les adversaires les plus ardents de Chrysostome. Dans cette assemblée composée d'hommes qui, pour la plupart, avaient élevé des plaintes contre Chrysostome, et qui se trouvaient ainsi être à la fois accusateurs, juges et partis, renforcés de quelques membres indignes du clergé de Constantinople qui venaient faussement et lâchement déposer contre leur patriarche, Théophile fit lire les chefs d'accusation qu'il avait arrêtés avec Eugraphia et qu'il avait ensuite développés et rédigés de concert avec Sévérian et d'autres évêques. L'accusation de haute trahison produisit une impression extraordinaire. Elle se répandit bientôt, non seulement en Chalcédoine, mais aussi à Constantinople. Chrysostome, disait-on, méritait d'être décapité. La nouvelle pénétra dans le palais patriarchal. Tous les évêques qui s'y trouvaient réunis furent pénétrés de colère et de tristesse contre la justice et la possibilité d'un pareil attentat. Tous se pressaient autour de lui pour lui témoigner leur affection et leur dévouement. Chrysostome, plein de calme et de tranquillité, les consola en disant que la vérité catholique n'avait pas commencé avec lui et ne périrait pas avec lui. Il ne se sentait coupable d'aucun crime qui méritât la déposition ou la mort. « Mais d'ailleurs, ajoutait-il avec le grand apôtre, le Christ est ma vie, et je ne puis que gagner à mourir. » Un bon nombre demandèrent ses conseils pour le cas où un antipatriarche serait installé. Il les engagea à pousser l'indulgence jusqu'aux limites les plus extrêmes pour éviter un schisme, et à rester à leur siège afin d'épargner à leur troupeau la douleur de recevoir, en place de bons pasteurs, d'indignes mercenaires. Un jeune clerc interrompit ses entretiens, à la fois si sérieux et si tristes, pour annoncer deux évêques égyptiens chargés de présenter à Chrysostome un message de la part de l'assemblée de Chalcédoine. Le patriarche les reçut dans la grande salle de son palais, entouré des 40 évêques que l'empereur avait convoqués pour examiner la plainte contre Théophile. Mais cela ne fit aucune impression sur les envoyés. Ils savaient sur quel bras ils devaient s'appuyer. Ils donnèrent lecture d'un acte qui sommait Chrysostome et son diacre Sérapion de comparaître devant le concile au palais du chêne. Toute l'assemblée protesta hautement, le calme se rétablit quand Chrysostome prit la parole. « Je ne sache pas, dit-il, que personne n'est sujet de m'accuser. Mais si c'est la volonté de Dieu que je laisse examiner par des hommes éclairés de l'Église les mobiles de ma conduite et des actes de toute ma vie, je suis prêt à me mettre en présence des évêques réunis au chêne, en présence des évêques du monde entier réunis en concile, mais sous la condition que mes ennemis déclarés en sont exclus, car mes accusateurs ne doivent pas être mes juges. Je désigne tout d'abord Théophile et Sévérian. Leur hostilité contre moi est tellement connue de tout le monde qu'on l'a mise en chanson jusque sur les théâtres. Excluez-les comme juges, et je suis prêt, mais seulement alors. N'attendez jamais de moi une autre réponse. » Un clerc parut de nouveau et annonça à un secrétaire d'Arcadius. Ce personnage remit à Chrysostome, de la part de l'empereur, l'ordre de comparaître devant ses juges au palais du chêne. Le patriarche fit au secrétaire impérial la même réponse qu'il avait faite aux deux envoyés, et pendant que l'un retournait au palais et les deux autres à Chalcédoine, Chrysostome se rendit à l'église Sainte-Sophie. Les fidèles s'y étaient réunis en masse. Ils priaient pour leur patriarche, pour sa vie. Ils priaient pour qu'il restât au milieu d'eux. Ils demandaient à Dieu l'apaisement de ces tristes discordes religieuses. Quand il parut en chair, toute l'assistance fondit en larmes. On levait les mains vers lui d'une manière suppliante, on lui tendait les bras comme pour le retenir, car on croyait qu'il venait faire ses adieux. Mais le patriarche voulait seulement calmer l'agitation et exhorter ses ouailles à la résignation. « Le flot monte et la tempête se déchaîne, dit-il, mais nous ne craignons pas de périr, car nous sommes sur un rocher. Que la mer entre en fureur, le rocher reste immobile. Que les flots se courroucent, la barque de Jésus-Christ ne se brise pas. Que craindrions-nous? Le bannissement? Mais la terre est au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. La pauvreté? Mais nous n'avons rien apporté au monde, et il est bien clair que nous n'en emporterons rien. La mort? Oh, mes chers frères, le Christ est ma vie, et je ne puis que gagner à mourir. Que les flots en courroux, que la colère du monde me menace, tout cela est aussi vain pour moi qu'une toile d'araignée. Je dis, Seigneur, que votre volonté soit faite. Voilà mon rocher et mon ancre. Si Dieu veut que je sois ici, je lui en rends grâce. Veut-il que je sois dans un autre endroit? Je lui en rends grâce également. Pendant qu'il parlait ainsi, tout semblait calme et tranquille. On le regardait, on l'écoutait. On était consolé par le son de sa voix, par le regard de ses yeux. On se reposait sur lui comme des enfants sur leur père. Il eût pu continuer à parler tout le jour et toute la nuit, personne n'aurait quitté l'église. On aurait même désiré qu'il le pût faire, car dans la maison de Dieu, il était en sûreté pour eux. Quand il voulut descendre de la chaire, toute l'assistance fit entendre un long gémissement. Il promit de leur parler encore le lendemain. Alors, on le laissa sortir. Mais l'église Sainte-Sophie eut, toute la nuit, des fidèles en prière.